Voix Afrique, les infos à Washington.
Eric Manilakiza avec vous pour développer les nouvelles du monde. 18h à Bujumbura, 16h à Ouagadougou, Burkina Faso. D'abord en Afrique, Bujumbura, la capitale burundaise, devient une ville où les morts sont quotidiennement ramassés dans les rues de la capitale, alors que l'on s'approche de la date butoir du 8 novembre, date à laquelle les gens armés doivent rendre les armes. 4 cadavres ont été retrouvés ce jeudi matin dans 2 quartiers au nord de Bujumbura. Des habitants des quartiers contestataires du nord quittaient ces quartiers par peur de leur sécurité. L'Union africaine se dit inquiète de la détérioration du niveau sécuritaire au Burundi. Les États-Unis appelant leurs ressortissants non essentiels à ne pas se rendre dans ce petit pays d'Afrique centrale. Le reportage de notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Dans une conférence de presse jeudi, le porte-parole de la police a affirmé que 4 personnes ont été tuées mercredi soir à Mutakura et Chivitoke, 2 quartiers contestataires. Une des victimes, selon la même source, n'avait pas de tête et à une autre qu'on a enlevé son cœur. Le porte-parole de la police indique que 5 personnes ont été tuées par des insurgés, mais les témoignages de la population sont formels. Ce sont des policiers qui sont les exécutants. Ce jeudi matin, des habitants de ces quartiers fuyaient avec leurs ustensiles de cuisine, matelas et des destinations inconnus, craignant pour leur vie. Le président de la République avait donné lundi un ultimatum de 5 jours aux personnes possédant les armes de les remettre, faute de quoi tous les moyens seront utilisés pour combattre ces insurgés. Le premier vice-président, le ministre de la Défense et de la Sécurité, avait embrayé en affirmant que la récréation a assez duré et que même des avions, s'il le faut, seront utilisés pour déloger ces groupes d'insurgés qui sèment la haine et la désolation. La communauté internationale et africaine se disent inquiètes de la détérioration de la sécurité dans ces pays de plus de 10 millions d'habitants. Tout le monde appelle au dialogue inclusif entre tous les protagonistes burundais. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La peur, la crainte poussent donc les habitants des quartiers contestataires à fuir vers d'autres quartiers de la capitale plus ou moins stables. Suivez un des habitants qui a fui son quartier qui témoigne.
Je fuis la barbarie de nos forces de sécurité, des gens qui sont en tenue policière. D'après le discours du chef de l'État, avant-hier le 3 novembre, nous avons jusque samedi pour remettre les armes. C'est très bien que nous n'avons pas d'armes et ils nous demandent de les remettre samedi et que, passé ce délai, tous ceux qui se trouveront dans ce quartier seront considérés comme des ennemis de la nation. Alors actuellement, ce n'est plus le moment de prendre les déclarations de Pierre Nkurunziza à la légère. Il y a des actes qui ont déjà commencé. Hier soir, il y a un habitant de Charama qui passait à Mutakura, qui rentrait chez lui, qui a été assassiné sauvagement. Il n'avait commis rien comme faute, il ne faisait que passer. Maintenant, on se demande ce qui adviendra ce samedi. On se demande ce que signifie la déclaration du chef de l'État. On se demande ce que signifie les déclarations des ministres en charge de la sécurité, de la défense, etc., quand ils menacent la population clairement. Et, bref, nous avons peur. Nous avons peur. Nous attendons de voir ce qu'ils ont prévu de faire ce week-end. J'essaie de me mettre à l'abri, mais malheureusement, se mettre à l'abri où? Parce que, certes, nos quartiers ils sont menacés, mais on se demande s'ils ne vont pas aussi nous poursuivre dans les autres quartiers où nous allons trouver refuge pendant ce week-end.
Mathias, un habitant de Bujumbura qui a fui son quartier. Réaménagement constitutionnel au Burkina Faso, le CNT, le Parlement de la Transition, a procédé ce matin à la modification de plusieurs articles de la Constitution. L'article 37 qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels consécutifs a été verrouillé. Le Sénat intégré dans l'organisation institutionnelle du Burkina en mai 2013 a été supprimé. Pour le député Alexandre Sankara, il était nécessaire au sortir de l'insurrection de procéder à un toilettage de cette Constitution.
L'article 37 a été verrouillé, comme on dit. Vous savez, dans notre condition, il y avait des domaines qui n'étaient pas modifiables. Les articles qu'on avait sacralisés. On a mis l'article 37 dedans. Et donc, désormais, on ne peut plus le modifier, sauf vraiment à passer à une nouvelle constitution.
Oui. Et quels sont les autres points clés en dehors de l'article 37?
Les autres points clés, c'est l'exculpation du Sénat. Parce que le Sénat avait été déjà constitutionnalisé. Et comme c'était aussi un point de revendication pour des manifestants. Alors, le Conseil national de transition a jugé bon de l'enlever de la Constitution.
Et puis, il y a aussi la devise hein, qui est revenue à la patrie
oui,
ou la mort.
Oui, on a ramené la patrie ou la mort, nous vaincrons, en lieu et place de l'unité, progrès, justice. Ça aussi, c'est dans la logique de l'insurrection. Les gens se retrouvaient à travers cette devise-là pendant tout le long des manifestations. Même après le putsch manqué du 16 octobre, c'est cette devise-là que les gens chantaient.
Le député Alexandre Sankara a été joint par Bagassi Koura.
VOA Afrique en direct de Washington.
En Tanzanie, prestation de serment aujourd'hui du nouveau président John Magufuli. La cérémonie s'est déroulée à Dar es Salaam, la capitale économique, devant de nombreux chefs d'État africains et sous les applaudissements de la foule. Jacques Aristide.
Candidat du parti au pouvoir, John Magufuli a obtenu près de 60% des voix et largement devancé son principal rival, Edward Lowassa, à la présidentielle du 25 octobre. L'opposition affirme que le scrutin a été truqué, tandis que l'archipel semi-autonome de Zanzibar a annulé ses résultats en raison d'irrégularités présumées. Lors de sa prestation, justement, le nouveau chef d'État a dit espérer que le parti au pouvoir à Zanzibar et l'opposition puissent régler leurs différends à l'amiable, rapporte l'AFP. Il a également promis de sortir la Tanzanie de la pauvreté. Samia Suluhu Hassan a également prêté serment. Elle est devenue la première femme vice-présidente de la Tanzanie et a promis de faire tout son possible pour donner des conseils avisés et honnêtes au président. Ont assisté à la cérémonie le président en exercice de l'Union africaine, le Zimbabwéen Robert Mugabe et les chefs d'État du Kenya, Uhuru Kenyatta, d'Ouganda, Yoweri Museveni, du Rwanda, Paul Kagame, de République démocratique du Congo, Joseph Kabila, d'Afrique du Sud, Jacob Zuma.
En Ouganda, l'élection présidentielle aura lieu le 18 février. La commission électorale nationale a enregistré 8 candidatures, dont celle du président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis près de 30 ans. Au Rwanda, le Sénat a commencé à examiner un projet de réforme de la Constitution qui peut permettre au président Paul Kagame de se représenter en 2017. Les députés l'avaient adopté le 29 octobre. Une fois adoptée par le Sénat, la Constitution remaniée sera soumise à référendum.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Ailleurs dans le monde, le Royaume-Uni préparait aujourd'hui le rapatriement de ses touristes de Sharm el-Sheikh au moment où le président égyptien rencontrait à Londres le premier ministre britannique. David Cameron a jugé plus que probable l'implication de l'État islamique dans le crash d'un avion russe dans le Sinaï. Le crash, et je vous le rappelle, fait 224 morts. Salwa Jafari a les détails.
Une déclaration du Premier ministre Cameron peu avant sa rencontre avec le président égyptien en visite à Londres. Cameron a annoncé la suspension des vols britanniques en partance pour Sharm el-Sheikh, bien que l'investigation soit toujours en cours. Il dit s'être basé sur des renseignements dont il n'a pas précisé la source. Pour sa part, le Kremlin a qualifié de spéculation les différentes hypothèses émises autour du crash en scepticisme partagé par les Égyptiens. Quant à Washington, on privilégie la thèse de l'implication de l'État islamique. La chaîne d'information CNN a cité plusieurs hauts responsables américains suggérant qu'une bombe aurait été placée à bord de l'avion par l'État islamique ou l'un de ses affiliés. Ils ont toutefois précisé que les services de renseignement américains n'ont pas examiné les preuves relevées sur les lieux du crash.
Salwa Jafari en Égypte. Toujours, Osama Kamal, ministre de l'aviation civile, a affirmé que les enquêteurs n'ont pas encore de preuves ni de données confirmant l'hypothèse que l'explosion d'une bombe est à l'origine du crash de l'avion russe qui a tué 224 personnes dans le Sinaï. Au Soudan du Sud, les autorités recherchent les boîtes noires de l'appareil qui s'est écrasé hier à son décollage de Juba, faisant au moins 36 morts. Et en Égypte, le procès de l'ex-président Hosni Moubarak a été reporté jeudi au 21 janvier 2016. Et les futurs ministres du Nigeria ont été avertis jeudi lors d'une rencontre avec le président Muhammadu Buhari qu'aucun manquement à la loi ne serait toléré et qu'ils devront se montrer économes. Et conflit en Ukraine. Les séparatistes pro-russes de la République rebelle de Donetsk ont annoncé jeudi avoir achevé la dernière étape du retrait de leurs armes le long de la ligne de front. Fin de ce journal, le prochain dans 50 minutes. Au revoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.